Et on retrouve Frédéric Rivière avec votre invité ce matin, le député La France Insoumise du Val d'Oise, Paul Vannier.
Bonjour Paul Vannier.
Bonjour.
Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a présenté hier les nouvelles règles de l'assurance chômage dans le cadre de la réforme qui vient d'être adoptée par le Parlement. Et comme on s'y attendait, c'est la durée d'indemnisation qui va être réduite de 25% lorsque le marché de l'emploi sera considéré comme favorable, c'est-à-dire en dessous de 9% de chômage, ce qui est le cas actuellement. La totalité des syndicats de salariés dénoncent une injustice. Le patronat parle d'une réforme de bon sens. Pour vous, par quelle volonté est animé le gouvernement ?
Celle de la violence et peut-être de l'humiliation sociale. La volonté du gouvernement est de faire croire que les chômeurs sont responsables du chômage et qu'il faudrait donc les punir. Je rappelle que ce gouvernement, il y a quelques mois déjà, a baissé le montant de l'indemnisation des chômeurs par une précédente réforme. En moyenne, pour plus d'un million d'entre eux, leurs allocations ont diminué de 17%. Et là, c'est la durée de versement de ces indemnités qui va être diminuée de 25%. Dans un moment très particulier, les Français le savent, ils sont pris tous à la gorge par l'envolée des prix, des denrées alimentaires, de l'énergie, des carburants, et donc dans une situation très difficile. Cette décision, elle va plonger des millions de personnes, des femmes, des hommes, leurs enfants, dans la pauvreté, dans une pauvreté noire, et elle est profondément, de ce fait, injuste. Il faut rappeler que nous vivons dans un pays où il n'y a pas assez d'emplois. Il y a une offre d'emploi disponible pour 17 demandeurs d'emploi.
97%, mais il y a aussi beaucoup d'emplois non pourvus.
Mais 97% des offres d'emploi sont justement pourvues. Et ce récit qui consiste à faire croire qu'il y aurait un stock d'emplois que personne ne souhaiterait remplir, c'est un mensonge et il est fait, il est utilisé pour venir prendre des droits aux chômeurs. Les chômeurs ont cotisé pour obtenir des allocations lorsque des personnes sont privées d'emploi. C'est là-dessus qu'Emmanuel Macron veut revenir. On voit contre qui il exerce sa force et qui, dans le même temps, il épargne. Parce que je veux dire qu'on demande aux chômeurs aujourd'hui de faire ce qu'on appelle des efforts, mais les actionnaires, les grands patrons, les milliardaires dans ce pays, eux, se gorgent, se gavent de dividendes records. Mmh. Il faut rappeler que 5 milliardaires possèdent autant que 27 millions de Français, et contre cette injustice, Emmanuel Macron et son gouvernement ne font rien.
Ouais. Mais est-ce qu'il est, si on est simplement dans le raisonnement, est-ce qu'il est absurde de se dire qu'il est moins difficile de trouver du travail quand il y a un chômage à 7,3 ou 7,4%, ce sont les chiffres d'aujourd'hui, que lorsqu'il est à 10 ou 11% et que dans ces conditions, en effet, on peut se dire que la durée d'indemnisation peut être diminuée.
Et je vais vous dire, rentrons dans le détail. Et théoriquement, peut-être qu'on peut avoir cette impression, mais prenons un cas précis. Imaginons qu'il y a des offres d'emploi disponibles chez les plombiers, mais qu'au contraire, chez les boulangers, le taux de chômage augmente. Mmh. Alors, on va pénaliser les boulangers parce qu'on crée de l'emploi dans la plomberie. Imaginons la même chose à l'échelle du pays. Si le chômage augmente en Corse et qu'il baisse en Alsace, on va pénaliser les Alsaciens parce que la situation s'améliore en Corse. Tout ça est injuste et à chaque fois, c'est la double peine pour les chômeurs. Ils sont stigmatisés et ils payent le prix fort de la baisse des allocations.
L'ombre d'Adrien Quatennens plane sur le groupe La France Insoumise et au-delà sur la NUPES à l'Assemblée Nationale. Son arrêt de maladie a pris fin la semaine dernière. On a appris hier qu'il serait convoqué le 13 décembre prochain devant un magistrat du parquet de Lille pour une procédure de plaidé coupable pour la gifle qu'il a reconnu avoir donnée à sa femme. Adrien Quatennens doit-il revenir à l'Assemblée ou doit-il revenir devant les électeurs pour retrouver une légitimité ?
Eh bien, il doit revenir à l'Assemblée nationale, en tout cas, c'est ce que pensent les députés du groupe La France Insoumise, puisque aucun d'entre eux n'a exprimé le contraire. Et nous sommes, en ce moment même, en train de travailler à ce retour, à en discuter collectivement, entre nous, prenant en compte l'ensemble des paramètres de la situation, et notamment ce nouveau paramètre, le fait qu'Adrien Quatennens a un rendez-vous avec le procureur de la République à Lille le 13 décembre prochain.
C'est-à-dire préparer le retour, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est de quelle nature ?
Mais Adrien Quatennens est député, oui. Et il va revenir siéger à l'Assemblée nationale. Oui. Nous réfléchissons aux conditions dans lesquelles il peut le faire, au rythme auquel il va le faire. Et c'est une décision, à ma place ce matin, je veux la respecter collective. C'est un débat que nous avons entre nous. Et donc moi, je me tiens à cette décision, à ce processus collectif et à cette décision qui interviendra rapidement, je pense.
Oui. Vous savez qu'il ne sera pas accueilli à bras ouverts ?
Mais nous verrons. Moi, je pense qu'il y a une chose qu'il faut dire et qu'il faut reconnaître. Adrien Quatennens a pris ses responsabilités. Il a dit avoir commis ce geste. Il n'est pas resté dans une forme de déni, de refus d'affronter cette question. Et je crois que cette reconnaissance, elle peut participer d'un processus. Il faut en penser les étapes, le rythme de réhabilitation. En tout cas, je suis, moi, je ne peux pas accepter l'idée d'une condamnation ad vitam aeternam pour un geste aussi inacceptable soit-il. Nous parlons d'une gifle à l'encontre de son épouse. Et je dois dire que ce geste...
Dans le cadre d'une séparation.
Dans le cadre d'une séparation. Oui. Je dois dire que cette façon dont Adrien Quatennens lui-même a assumé cet acte, on a pris un certain nombre de responsabilités. Le mouvement La France Insoumise a aussi pris ses responsabilités, puisqu'Adrien Quatennens n'est plus coordinateur de notre mouvement. Tout ça doit être pris en compte dans le cadre de cette discussion collective qui doit préparer son retour.
Et quand Sandrine Rousseau dit... S'il veut revenir, il faudra qu'il prouve qu'il peut apporter quelque chose aux femmes. Est-ce que c'est un message intelligent ?
En tout cas, du point de vue de la question de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, dont je rappelle qu'elle est un des combats principaux de la France insoumise, je crois que de voir un homme reconnaître un geste, c'est avoir un rapport nouveau et productif à cette question. Je crois que c'est plus utile, que ce rapport est plus utile que celui que nous avons souvent observé, celui du déni.
Le groupe La France Insoumise, NUPES, va bénéficier d'une niche parlementaire, ce sera après-demain. Vous allez défendre, enfin vous, le groupe, va défendre à cette occasion 12 propositions de loi, parmi lesquelles une loi anti-concentration dans les médias qui interdirait à un actionnaire de posséder plus de 20% d'un média. Est-ce que le contrepoids à ces médias privés qui sont visés par cette proposition de loi n'existe pas déjà avec le service public de l'audiovisuel ?
Il existe, et fort heureusement, le service public de l'audiovisuel est là, il fonctionne d'ailleurs, il capte des auditeurs, des téléspectateurs, mais il est lui-même menacé. Je vous rappelle que le gouvernement et l'Assemblée nationale viennent d'adopter une réforme du financement de l'audiovisuel public avec la suppression de la redevance qui place l'audiovisuel public dans une situation nouvelle et dans une situation de dépendance vis-à-vis du pouvoir politique. Puisque désormais, chaque année, à l'occasion de l'examen du budget, les moyens du service public audiovisuel pourraient être réduits au nom d'économies budgétaires ou au nom peut-être aussi de la volonté d'exercer une forme de pression sur les rédactions du service public. Mon groupe s'est opposé à la suppression de la redevance audiovisuelle pour cette raison-là. Et donc je dis, oui, le service public est une garantie, mais un, il doit être défendu, et deux, cela ne nous prive pas de l'examen de la situation dans le secteur privé. Parce que là, nous assistons à une concentration sidérante. 8 milliardaires possèdent 90% des médias privés de ce pays. Nous avons encore ces dernières semaines vu des projets qui n'ont pas abouti, et de fusion entre TF1 et M6, par exemple, tout ça pose une question démocratique. C'est notre démocratie, notre débat démocratique, notre vie démocratique qui est engagée. La concentration des médias, elle porte atteinte au pluralisme des idées. Elle porte atteinte à la liberté de la presse, à la liberté des rédactions. Elle supprime des emplois dans les rédactions de journalistes et donc elle est en péril. C'est la raison pour laquelle ma collègue Clémentine Autain dépose cette proposition de loi qui sera peut-être débattue jeudi à l'Assemblée nationale.
À propos de vie démocratique, assez rapidement, vous allez proposer également un texte pour abaisser le seuil de signature d'un RIP, un référendum d'initiative partagée, à 1 million de signatures contre 4 700 000 actuellement. Vous rappelez d'ailleurs à cette occasion qu'en 2019, Emmanuel Macron s'était engagé à le faire. Vous pensez dans ces conditions pouvoir avoir le soutien de la majorité,
enfin, je l'espère.
Du groupe Renaissance ?
Je l'espère, mais j'en doute parce que nous assistons en ce moment même à du côté de Renaissance et du gouvernement à une volonté de museler, de piétiner le Parlement. Hier, c'était le 5e 49-3, et puis nous avons notre niche parlementaire jeudi dans le cadre de laquelle ce texte sera étudié. Nous assistons là, ces dernières heures, à une véritable tentative d'obstruction parlementaire des députés Renaissance, de blocage, une volonté de nous empêcher de débattre et d'aller au bout des textes. Alors, c'est une raison supplémentaire pour dire que ce type de proposition qui vise à introduire de la démocratie directe dans nos institutions est absolument nécessaire.
Merci Paul Vanier. Bonne journée.